Bonsoir. Dialogue entre Congolais se penche ce soir sur la perméabilité des frontières congolaises avec pour illustration les deux incursions étrangères sur le territoire congolais. D'abord, l'incursion des troupes angolaises dans le village de Chambwanda et plusieurs autres près de Kaemba dans le Bandundu. Pendant ce temps, des éleveurs nomades tchadiens et centrafricains armés, les Mbororo, règnent dans le territoire de Ango en province orientale. Quelle situation prévaut actuellement dans ces contrées et comment les autorités congolaises comptent-elles régler ce problème? Parmi les réactions des auditeurs, Junior Soumaïli Akikuit dans la province de Bandundu dit ceci: nous attendons que le Premier ministre et son gouvernement règlent ce problème des frontières car c'est une priorité pour son gouvernement. Jiro Kalenda de Kalemi au Katanga s'interroge: pourquoi le gouvernement reste-t-il impuissant face à cette incursion illégale des troupes étrangères dans notre pays? Pour sa part, Jean-Denis à Gbadolité dans la province de l'Équateur pense que la RDC manque une armée patriotique. Si elle en avait, poursuit Jean-Denis, les Angolais et les éleveurs armés Mbororo seraient déjà chassés du territoire congolais. Nous abordons ce sujet avec pour invité le député provincial et ancien président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Bandundu, Cléophas Kamitatu Masamba. Autre invité, la députée provinciale Caroline Viana, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de la province orientale, et l'expert en questions militaires, le colonel en retraite, docteur Jacques Ebenga. Bonsoir, chers invités.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099 8 999 222.
Quelle est la situation qui prévaut actuellement au village de Chambwanda et d'autres localités du territoire de Kaemba? Nous sommes au sud de la province de Bandundu, à la frontière avec l'Angola. La situation est confuse dans cette zone. Depuis 3 semaines, des éléments armés angolais en tenue de policiers auraient pris le contrôle de quelques localités de ce territoire. Notre consoeur Agathe Mpona suit cette situation depuis 1 semaine. Pour en savoir plus, je vous convie à suivre son entretien avec Georges Kamujova.
Bonsoir Agathe Mpona.
Bonsoir Georges Kamujova.
Quelle est la situation de Kaemba aujourd'hui?
La situation à Kaemba est la même qu'il y a 3 semaines. Des éléments armés angolais se sont introduits dans plusieurs localités de ce territoire. Il s'agit entre autres des localités de Chambwanda, Chakadiata et Chawano. Ces localités sont au niveau de la frontière avec l'Angola. Et selon les informations en notre possession, des habitants auraient même fui pour se réfugier dans les villages voisins. Je vous propose le témoignage d'un opérateur économique joint à Kaemba.
Ils ont refoulé les originaires de Chambwanda qui se sont installés dans un village tout proche de Chambwanda. Pour accéder à Chambwanda, ils leur font payer un jeton pour les jours seulement, pour retourner au sud, moyennant un jeton aussi. Le gouverneur de Lunda Nord qui est venu les installer, il a dit pas question de négociation.
On a compris cet opérateur économique et donc l'accès à ces villages ne devient possible pour cette population que moyennant l'achat d'un jeton.
Il faut dire qu'il y a une autre source qui dit le contraire. Elle assure que la population n'est pas dérangée et qu'elle vague aisément à ses activités. Un membre d'une délégation officielle conduite par l'administrateur du territoire s'est rendu sur les lieux et nous a informé quant à lui que ces éléments sont lourdement armés. Ils seraient envoyés par leur supérieur et hiérarchique, Georges, avec des consignes bien précises. Les équipes qui font la garde se relaient régulièrement et ils ont donc le contrôle de toutes ces localités.
Alors vous nous disiez à l'instant que ces éléments ont des instructions précises. Gatpona, avez-vous une idée de leur objectif sur le territoire congolais?
Il y a 2 positions qui s'affrontent à ce sujet, Georges. Selon une de nos sources, la rivière Kakamba serait leur objectif. Cette rivière, il faut le dire, est riche en minerais diamantifères et elle traverse la région. Mais une autre source, quant à elle, affirme que ces éléments auraient été envoyés pour garder la frontière. Ils estimeraient ainsi que ce territoire leur appartient. Écoutez le témoignage d'un habitant joint près de Chambwanda.
Pour le moment, les Angolais ont récupéré la partie de Chambwanda où ils ont érigé leur camp. Ils ont dit qu'ils veulent maintenant contrôler tous les territoires angolais, donc toute la frontière. C'est ça l'objectif de cette mission-là.
Je vous signale que la délégation d'officiels conduite par l'administrateur du territoire qui s'est rendue sur les lieux n'a pas pu arriver jusqu'à Chaimbon.
Alors on comprend tous ces faits, mais qu'en disent les autorités congolaises?
Du côté congolais, il y a exactement une semaine que le ministre congolais des Affaires étrangères du gouvernement de transition a réagi. M. Ramazani Baya a remis une note de protestation destinée au gouvernement angolais. Et dans cette note de protestation, il a invité le diplomate angolais à communiquer à son gouvernement le souci des autorités congolaises de voir Luanda ordonner le retrait immédiat de ses éléments armés. Et depuis, nous n'avons pu avoir aucune réaction des autorités congolaise.
Alors, pas de réaction du côté congolais. Quelle a été la réaction de la partie angolaise?
Du côté angolais, Georges, tous nos efforts pour contacter un responsable sont restés vains.
Merci beaucoup, Agathe Mpona, pour toutes ces précisions.
Merci, Georges.
Voilà, sachez que nous avons contacté l'ambassade d'Angola à Kinshasa, mais sans succès. Nous espérions aussi avoir dans dialogue entre Congolais ce soir le ministre congolais de l'Intérieur, Denis Kaloumé, qui n'a pas préféré s'exprimer maintenant sur cette question. Le général Denis Kaloumé promet cependant l'envoi demain jeudi d'une mission conjointe de deux gouverneurs du Bandundu et de la province voisine d'Angola sur les lieux. Voilà, honorable Cléophas Kamitatou Masamba, vous êtes député provincial du Bandundu, vous avez suivi, le gouvernement a déjà protesté auprès des autorités congolaises. Le ministre de l'Intérieur qui promet l'envoi demain d'une mission conjointe gouverneur du Bandundu et celui de la région angolaise voisine, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous accueillez ce geste?
Que la protestation ait été faite, c'est normal, mais elle est molle.
Comment ça?
Ça fait pratiquement un mois, tout a commencé en janvier, que les forces de police sont allées faire une prospection. Et 8 jours après, 13 éléments armés, habillés en policiers, mais qui sont des militaires, pour, d'après les villageois que j'ai eus au téléphone hier, ces militaires ont occupé 12 villages. Ils sont 13.
Dans le même territoire de Kaimbanda.
Dans le même territoire, c'est-à-dire dans le groupement de Chaimbanda. Ils ont occupé maintenant 12 villages. Il y a 13 militaires qui se relayent. Alors, lorsque l'administrateur n'a pas pu atteindre le lieu, il a envoyé un message pour savoir si ces gens étaient venus de leur propre chef, c'était des bandits, ou s'ils avaient été mandatés. Apparemment, ce ne sont pas des bandits, ils se relayent. Ils ont été envoyés. Par qui? On suppose que ce n'est pas l'autorité la plus proche. Je ne dis pas forcément le gouvernement angolais, mais si c'est l'autorité provinciale de la zone, elle représente le gouvernement angolais dans la zone.
Donc c'est quand même des troupes régulières.
C'est des troupes régulières. Et ce n'est pas un problème d'incursion, c'est un problème d'occupation. Parce qu'ils sont là en permanence. Ils sont là depuis le début du mois de février. Cela fait un mois aujourd'hui qu'ils ont occupé ces 13 villages, qu'ils ont occupé tout l'espace à travers lequel les habitants, quand ils veulent faire mouvement, doivent payer cette fameuse taxe. Ils la payent.
Et pourquoi vous dites que la réaction du gouvernement est molle?
Mais parce que on ne peut pas laisser occuper son propre territoire pendant un mois par des troupes d'un autre pays. Ça a commencé comme ça, ou qui vous? Et si l'on laisse un mois, pourquoi pas 3 mois? Pourquoi pas 6? Non. Le serment que nous avons prêté, c'est celui de maintenir l'unité de la nation congolaise. Vous avez dit en début de cette émission que les frontières sont poreuses. Dans cette partie du pays, il n'y a pas eu la guerre. Parce que nous avions pensé que nos relations avec l'Angola étaient bonnes. C'était des voisins qui comprenaient notre position et nous aussi on comprenait la leur. Mais quand à 80 km de Kayemba, qui est le chef-lieu du territoire, des troupes angolaises peuvent venir faire une occupation permanente avec un relais systématique pour occuper une zone que l'on considère comme étant territoire angolais. Parce que les militaires qui sont arrivés là disent qu'ils sont venus récupérer leur terre. Même si c'est un terme coutumier, nous pouvons le comprendre. Parce que nous avons des chefs coutumiers congolais qui sont chefs coutumiers en Angola où c'est cette frontière-là. Nous les avons, nous les connaissons. Il y en a même un qui vient d'être élu sénateur. Il a juridiction coutumière sur les villages angolais et sur les villages congolais. Mais il y a une frontière administrative. Et les Belges et les Portugais s'étaient mis d'accord pour mettre des bornes pour indiquer cette frontière. Oui. Ils ont dépassé ces bornes. Ils sont venus occuper le groupement et les villages. Non.
Voilà.
Donc la position du gouvernement est trop molle et trop faible.
Voilà. Et vous-même, honorable, vous êtes député provincial et vous êtes tout récemment, vous étiez président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour amener le gouvernement à agir à temps?
Je dois vous avouer qu'au moment où nous avions dirigé le bureau provincial, ce problème n'était pas connu. Nous n'avions pas d'informations. Le gouvernement n'en avait pas non plus. C'est au mois de février que tout s'est déclenché. Nous avons terminé nos opérations en province le 28 janvier. Donc nous n'étions pas informés de la situation. Si nous étions informés, l'Assemblée provinciale allait se réunir pour prendre une motion adressée au gouvernement central pour agir.
Mais comment est-ce que vous êtes député provincial et qu'une telle situation vous échappe, honorable?
Non, elle ne nous échappe pas. Elle arrive après que nous ayons terminé notre session. Attention, il faut bien préciser les choses.
Voilà.
Ça s'est passé en février. À partir du 6 février, nous n'étions plus en session. Nous avons déjà terminé notre session extraordinaire. Donc maintenant, nous avons pris connaissance de ce problème au même titre que toute la population congolaise.
Okay.
Nous rentrerons le 15 mars à Bandundu pour notre session ordinaire et là nous allons agir. Mais ce que je fais maintenant, à titre personnel, je le fais pour le compte de la population parce que nous sommes ses représentants et je suis sûr que tous mes collègues députés sont du même avis.
Voilà. Merci, honorable Cléophas Kamitatou. Docteur Jacques Ebenga, vous êtes colonel en retraite et expert en questions militaires. Comment vous appréciez la réaction des autorités congolaises? Vous avez suivi aussi tout ce qu'a fait l'honorable Cléophas Kamitatou en tant que député provincial du Bandundu.
Je suis étonné d'entendre que le ministre de la Défense n'ait pas jusqu'ici bougé d'iota pour assumer ses responsabilités, et que seul le ministre des Affaires étrangères a levé une protestation et que le ministre de l'Intérieur envisage d'envoyer une équipe plutôt politique sur le terrain. Pourquoi j'insiste sur le ministre de la Défense? Parce que c'est à lui que revient la responsabilité de la défense de l'intégrité du territoire.
Là, vous parlez du nouveau ministre de la Défense ou le
celui qui était en fonction à l'époque où la situation s'est développée sur ce territoire.
Oui.
Donc c'est celui-là qui aurait dû, au moins, en ce moment-là, nous indiquer quel est le dispositif militaire qui met en place pour contrer de telles occupations, puisque le ministre, le patriarche Kamitou a parlé d'occupation, et c'est vrai. Et fait étonnant encore, c'est que cette occupation est faite par une poignée d'hommes, 13 personnes qui occupent 12 villages, ça veut dire à peu près un policier par village. Bon, alors, est-ce que vraiment la République démocratique du Congo n'est pas à même de contrer une petite incursion, une occupation minime de ce genre-là, de ce type-là, alors que nous avons sur place une région militaire, de Bandundu, avec des unités cantonnées à Kikwit, et que la frontière, normalement, Kayemba, c'est quand même un territoire très, très riche en minerais, qui aurait dû être protégé à titre préventif contre une pareille situation. Donc tout cela m'indique que c'est surtout dans le chef du ministère de la Défense que je vois une grave défaillance. Parce que constitutionnellement, et du point de vue de la loi organique sur la défense, c'est lui, le ministère de la Défense nationale et l'armée, qui aurait dû réagir.
Par le ministère de l'Intérieur.
Mais il s'agit de la violation des frontières. Il s'agit de l'entrée par effraction, si vous voulez, en tout cas de violation flagrante des frontières avec occupation du territoire, donc avec une intégration, une intégrité du territoire bafouée. Donc c'est le ministre de la Défense qui a cette responsabilité, plutôt que le ministre de l'Intérieur.
Voilà. Et il y a héritier Kananga au Kassai Occidental, c'est un auditeur, il dit ceci: si les soldats angolais quittent leur pays pour s'installer d'une manière illégale, cela prouve que jusqu'alors nos frontières ne sont pas encore sécurisées et une telle situation peut amener à la RDC un autre conflit armé. Est-ce que vous êtes de cet avis que nos frontières ne sont pas du tout sécurisées?
Sécuriser un pays continental comme le nôtre avec près de 9000 km de frontières, ça veut dire à peu près le tiers de la circonférence de la Terre. Vous savez, c'est énorme. Il faut là tout un dispositif de sécurité avec la technologie moderne pour assurer une imperméabilité totale. Ce n'est pas facile. Mais néanmoins, résister à des incursions et à des intentions d'occupation telles que nous voulons le connaître, ça c'est du devoir de l'armée de le faire, et la police peut venir en appui à l'armée s'il faut, mais en tout cas c'est d'abord à l'armée à assumer cette responsabilité-là.
Voilà, honorable Cléophas Kamitatou Massamba, nous avons beaucoup d'auditeurs qui interviennent dans cette émission. Qu'est-ce que vous répondez par exemple à Jiro Kalenda de Kalemie au Katanga qui demande pourquoi le gouvernement reste-t-il impuissant face à cette entrée illégale des étrangers dans notre pays, hein, le cas de Kaimba. Votre réaction?
Merci pour cette question qui est pertinente. Je fais d'abord une parenthèse. Je viens de lire dans la presse de ce matin que des soldats angolais auraient occupé aussi quelques villages dans le territoire de Tshikapa.
Donc dans le Kasaï occidental.
Dans le Kasaï occidental, qui est le prolongement de Kaimba. Parce que là aussi, à des minéraux, la cause principale de cette occupation, c'est que ce groupement de Cheimbanda se trouve à l'intersection de plusieurs rivières qui sont des sources qui viennent vers le Congo. Et ces sources sont très riches en diamants. Et ces militaires savent, la prospection qu'ils ont faite les a conduits à cela. Donc nous pensons que plus que jamais, tant que le fer est chaud, l'armée doit battre ce fer chaud pour aller chasser. On ne doit pas attendre de formules diplomatiques. La diplomatie vient au secours de l'action. 13 agents armés qui franchissent leur frontière, notre frontière, pour venir occuper nos villages, je pense qu'on peut les repousser, que chacun reste sur sa frontière, et ensuite on négocie. Nous n'allons pas franchir, nous, la frontière angolaise. Nous restons à notre propre frontière. Mais à partir de ce moment-là, nous négocions. Mais au moins, on les aurait déjà évacués. Donc, qu'est-ce que je pense? Je dis, comme je l'ai dit au début, que la réaction du gouvernement est molle.
Oui.
Et comme a dit le docteur Ebenga, il faut que l'armée intervienne maintenant. On ne doit pas confondre la négociation politique et diplomatique avec l'action de la protection de la frontière nationale, qui est une obligation ardente, qui est dans notre constitution. Nous n'avons pas cédé un mètre carré de notre territoire à qui que ce soit.
Voilà, dire, si je vous comprends, l'usage de la force, ça c'est la solution que préconise l'honorable Cléophas Kamitatou Massamba.
Dans l'immédiat, contre ces 13-là, oui.
Voilà. Il y a Delvaux Attendé, notre auditeur, qui demande par quel mécanisme le ministre de la Défense compte-t-il expulser les éléments armés angolais sur le sol congolais. Un autre, c'est Roger Tumbo Nord-Kivu, se demande s'il est possible que les Angolais puissent occuper une partie de la RDC sans l'appui de certains Congolais ou du pouvoir angolais. Il ajoute, ne cédons pas encore une fois à la distraction. C'est comme ça qu'il conclut. Je pose la question à Dr. Jacques Ebenga. Vous êtes expert en questions militaires. Ça fait évidemment deux questions à la fois. D'abord, comment les autorités congolaises devraient-elles faire partir les troupes angolaises de Kaimba? Est-ce que vous êtes de l'avis de l'honorable Kamitatou qu'il faut utiliser la force?
C'est ce que je n'ai cessé de dire. Il faut utiliser la force parce qu'il s'agit là d'une violation délibérée. Et là, je diffère un peu avec le patriarche quand il parle de négociation. Il n'y a pas à négocier. Évidemment, il est politicien, il voit la négociation comme une issue à beaucoup de situations, mais personnellement, je ne vois pas comment on négocierait quelque chose qui a trait à la souveraineté du pays.
Est-ce que vous voyez les FARDC aujourd'hui en mesure de chasser les troupes angolaises de notre territoire?
Mais il s'agit de 13 personnes. 13 personnes, nous ne sommes pas en mesure de chasser 13 personnes de notre territoire, quand bien même ils seraient 100. Mais écoutez, alors là, c'est que nous n'avons aucune force de réserve, c'est que nous avons des régions militaires qui sont des étiquettes, c'est que nous n'avons pas même de capacité renforcée locale, même de la police, qui aurait pu ne fût-ce que résister à une petite incursion de ce genre-là. Donc cela démontre qu'il n'y a pas eu dans ce coin du pays un dispositif sécuritaire du tout. Tout a été concentré à l'est. On a oublié que de pareilles situations pouvaient également apparaître à l'ouest. Et c'est peut-être cela le drame de la situation.
Est-ce que vous pensez, comme le même auditeur qui ajoute que selon lui, certains Congolais seraient complices dans cette occupation des troupes angolaises, est-ce que vous pensez que c'est possible?
Bah, écoute, je ne connais pas la nature même des gens qui sont venus. Ils sont policiers angolais. Certains disent qu'ils ont été guidés par des Congolais ou des complicités avec des Congolais pour faire une certaine rapine dans le coin. Cela est possible. Mais qu'importe la situation, il s'agit des troupes étrangères qui sont venues. Il ne s'agit pas de Congolais seuls. Donc on traiterait ces étrangers qui ont envahi notre territoire de la manière la plus forte que possible, telle que l'autorise les règles.
Oui, honorable Cléophas Kamikatou, est-ce que vous avez appris l'information selon laquelle il y aurait des complices congolais dans l'occupation des troupes angolaises à Kaima?
Je viens de lire dans la presse qu'il y aurait des complices pour Tshikapa. Mais dans le Bandundu, je n'ai pas appris, je n'ai pas lu dans la presse, je n'ai pas entendu de communication que j'ai eue avec Kaimba, avec l'administrateur du territoire, avec le chef de la DGM. Je n'ai pas eu un seul instant l'impression qu'il y aurait des Congolais qui seraient complices. C'est une occupation qui peut-être semble être motivée par une couverture. On dit on veut récupérer nos terres qui sont de l'autre côté, mais en fait, ils sont à la recherche du diamant dont ils veulent assurer l'exploitation. Hier, Kaimba m'a informé que maintenant, des équipements pour l'exploitation du diamant partent de l'Angola vers là-bas, véritablement des équipements lourds. Donc c'est une opération qui est bien montée, qui est structurée et qui est organisée pour qu'on mette le Congo de nouveau devant le fait accompli.
Dialogue entre Congolais parle ce soir de la perméabilité des frontières congolaises avec l'incursion des troupes angolaises à Kaimba dans le Bandundu, précisément dans le village de Chambwanda et autres villages voisins. Incursion aussi des éleveurs nomades tchadiens centrafricains armés, les Mbororo à Ango en province orientale. Nous en parlons avec le député provincial du Bandundu, Cléophas Kamitatou Masamba, et la députée provinciale et vice-présidente de l'Assemblée provinciale de la province orientale, Caroline Viana, que nous allons retrouver tout à l'heure, ainsi que l'expert Jacques Ebenga, la suite dans quelques instants avec bien sûr le sujet sur la présence des Mbororo dans le territoire de Ango.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Dans le territoire de Ango, district du Bas-Ouélé, dans la province orientale, les éleveurs Mbororo ont profité des moments des conflits armés qu'a connu le pays pour s'infiltrer en RDC. Mais leur présence donne lieu parfois à des affrontements sanglants avec les populations locales. Notre confrère Aliana Alipanagama revient de ce territoire. Il nous fait le point de la situation sur place dans cet entretien avec notre consoeur Babel Pongo.
Bonsoir Aliana.
Bonsoir Babel.
Vous qui êtes dans la province orientale, comment vous pouvez nous expliquer la présence des Mbororo sur le sol congolais?
Notons d'abord que les Mbororo sont des éleveurs venus du Tchad, du Soudan et du Centrafrique. Leur arrivée remonte à novembre 2001. Selon leur propre déclaration, les Mbororo sont entrés sur le territoire congolais à la recherche de pâturage pour paître leurs troupeaux, des troupeaux estimés à des milliers de têtes de bétail. Ils entrent en RDC à partir de deux villages centrafricains, Obo et Mboki, et traversent la rivière Mbomou dans le territoire d'Ango au nord de la RDC. À partir de là, ils progressent en plusieurs groupes selon qu'ils sont tchadiens, soudanais ou centrafricains. Ils ont affirmé ne pas connaître la géographie des limites frontalières.
Et comment se passe la cohabitation entre ces Mbororo et les populations locales?
Vraiment, la cohabitation avec les paysans n'est pas facile, puisque ces Mbororo, avec les troupeaux, détruisent les champs des villageois et affirment incendier la savane pour chasser le serpent et obtenir des jeunes plantules au profit de leurs troupeaux. Ils troublent les sources et les cours d'eau, ce qui crée la rareté des poissons dans le milieu. Ces nomades éleveurs Mbororo sont répartis en deux groupes, les Ouda et les Inagamba. Les premiers, donc les Ouda, sont des Soudanais et les Centrafricains. Ce sont eux qui sont les plus dangereux pour la population locale, en croit les paysans d'Ango. Ils sont armés et rangés parmi les coupeurs des routes. Le deuxième, les Inagamba, sont des peuples tchadiens et sont pacifiques, puisqu'ils coopèrent parfois avec la population autochtone. La population accuse ce Mbororo d'abattre les animaux de la savane, notamment les éléphants et les buffles. En plus, ils achètent très cher et en grande quantité certains produits comme les rues, le manioc et le maïs. Conséquence, rareté de denrées alimentaires dans beaucoup de villages du territoire d'Ango.
Alors, comment mettre fin à cette situation?
Les soucis majeurs de la population locale, c'est le départ de ces éleveurs Mbororo. Elles souhaitent cependant une solution pacifique et négociée. C'est aussi le point de vue de l'administrateur intérimaire du territoire d'Ango, André Lemalema Kassassi.
Moi, j'estime qu'il fallait plutôt trouver une solution diplomatique pour voir le chef de ces gens-là et donner les ordres à ce chef que leurs sujets puissent quitter notre pays d'une façon pacifique et puis rentrer là où ils sont venus. Hein? On souhaiterait que, disons, la hiérarchie puisse réhabiliter l'Institut national pour la conservation de la nature qui autrefois avait des patrouilles dans cette réserve ici. Si on envoie des militaires, ces Mbororo sont bien informés en Bruce là-bas, ils peuvent fuir. Alors ces militaires vont rester pour tracasser la population.
Voilà Babel, ce qu'on peut dire en bref sur la situation des Mbororo dans le territoire d'Ango, dans le district du Bas où il est.
Merci Aliana pour ces informations.
Merci Babel Pongo.
Nous avons dans ce studio Dr Jacques Ebenga. Comment vous réagissez justement à ce que vous venez de suivre sur la présence des Mbororo à Ango?
Cet épisode ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je me rappelle avoir participé en 83 à une opération au nord-est, du côté de Bili, dans le nord Ubangi, dans une opération justement concernant les mêmes Mbororo qui, eux, étaient pacifiques. Ils ont traversé, ils sont venus du Tchad à travers le Chari, à travers la rivière Bamba et autres pour arriver sur l'Ubangi à la recherche de l'eau et des pâturages pour leur bétail. Et nous les avons sédentarisés en quelque sorte provisoirement. Et cela n'était pas du tout armé et ne posait pas de grands problèmes, vu qu'à ce que d'ailleurs ils aient été ramenés chez eux après avoir eu un encadrement musclé de la part des forces armées zaïroises à l'époque. Donc c'est pour dire que les migrations de ce genre se répètent et qu'elles ne connaissent aucune résistance, aucun encadrement forcé de la part des autorités congolaises, alors elles ont tendance à se pérenniser. Vous dites que depuis 2001, que ce phénomène existe dans ce coin, cela veut dire qu'il y a eu un grand laxisme quant à s'occuper de ces problèmes. Évidemment, nous étions en guerre. Entre nous, Congolais, on n'avait pas les armes tournées vers les Mbororo. On avait les armes tournées sur les uns et les autres ici. Ce n'était pas une préoccupation immédiate. Mais en tout cas, dès que le pays a été pacifié, je crois que l'État devrait commencer déjà à encadrer avec force ces migrants. Parce que pour moi, il s'agit de migrants en quête de pâturage. Donc, il faut que ces migrants oublient que maintenant, c'est une même époque comme celle qu'ils connaissaient pendant la guerre où il n'y avait aucune attention sur eux aujourd'hui.
Donc, les temps ont changé.
Les temps ont changé. L'État doit avoir un regard sur eux et ils doivent sentir ce regard.
Voilà, nous venons de retrouver l'honorable Caroline Viana, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de la province orientale. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Voilà, honorable, nous venons de suivre là un élément de nos confrères. Les Mbororo sont là depuis 2001 à Ango. Personne au niveau des autorités ne les inquiète. Comment vous expliquez cela?
Donc, le problème des Mbororo dans le territoire d'Ango demeure longtemps. La première fois, ils étaient venus comme des éleveurs en 1980. Et puis, à ce moment-là, la Deuxième République, ils vont les chasser. Et après ça, pendant la transition ici vers 2001, ils sont apparus encore. Cette fois-ci, non pas comme les éleveurs, ils sont des braconniers et puis ils ont des commerçants parmi eux. Et nous avions constaté pendant notre campagne que ces commerçants et ces braconniers ont des armes. Et ils commencent à profiter, à ravir des biens de la population, à chasser la population de là où ils étaient, et maintenant c'est eux qui occupent la place de population. Il y a une migration vers le centre, maintenant la frontière reste vide pour les Mbororo, et la population se migre maintenant à l'intérieur. Alors ça crée vraiment des sécurités totales pour la population, et de temps en temps, ces braconniers utilisent des armes pour tuer la population. La population, étant que des cultivateurs, vit de leur culture et maintenant se présente devant une situation chaotique, d'où la nécessité de la réaction de gens des affaires humanitaires est nécessaire, puisque la population est bitée de faim, la population n'a plus à manger, ils n'ont pas le temps de cultiver, la population est bitée aussi de certaines maladies qui n'existaient pas, comme les maladies diarrhiques qui n'existaient pas, Il y a des méningites qui apparaissent maintenant de l'autre côté qui n'étaient jamais là-bas. Mmh. Alors, c'est la situation qui est actuelle sur le territoire.
Voilà. Comment les Mbororo eux-mêmes justifient leur présence dans cette partie de la RDC? Je vous propose à présent de les écouter au micro de notre confrère Aliana Alipanagama. Notez tout de même que cet entretien s'est déroulé dans un pâturage. C'était le 20 février, en pleine savane d'Ango. L'éleveur Mbororo interrogé s'exprime en Sango, la langue nationale de Centrafrique, tandis que son interprète parle Lingala. On les écoute. Voilà, le Mbororo que vous venez de suivre dit qu'il n'a même pas encore totalisé une année en RDC. Cela fait environ un mois depuis qu'il est parti de Centrafrique. Il ajoute qu'ils sont venus au Congo pour élever leur bétail parce qu'ils profitent de bonnes herbes qu'on trouve dans le territoire d'Ango. À la question de savoir s'ils ont reçu l'autorisation d'entrer sur le sol congolais, il répond qu'ils n'ont aucun document. Il se dit centrafricain et son travail, c'est élever les animaux. Selon lui, les armes que les Mbororo détiennent, c'est uniquement pour protéger leurs bêtes et non pour tuer les personnes humaines. Honorable Caroline Viana, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Assemblée provinciale de la province orientale. On vient de suivre cet éleveur Mbororo. À l'entendre parler, il n'y a presque plus de frontières entre la RDC et la Centrafrique.
Oui, il n'y a pas de frontières, ça fait des années qu'il n'y a pas de frontières là-bas, il n'y a pas de douane. Ce Mbororo traverse comme il veut, sous le contrat de quelques chefs coutumiers. Alors, il fait tout ce qu'il veut. Bon, comme il vient de vous dire que celui-là a fait une semaine ou bien un mois, c'est leur habitude. À chaque fois, ils viennent, s'il y a un problème, ils rentrent. Le mois passé, ils étaient venus, ils ont attaqué la population vers Dakwa. On a tué 4 personnes, ils se sont reculés. Et après, maintenant, le troupe qui vient d'entrer, c'est tout à fait normal qu'ils vous disent qu'il a fait un mois. Normalement, ils ont leur siège à la frontière. Congo, République centrafricaine et le Soudan. Normalement, au Soudan aussi, il y a de feuilles vertes, mais ils ne peuvent pas aller là-bas parce que la frontière du Soudan est bien sécurisée. Notre problème, que notre frontière n'est pas sécurisée, sera laissée à une libertinage. Ils entrent n'importe quand, ils font tout dégât qu'ils veulent.
Voilà. On vous garde, Madame Honorable Caroline Viana, Docteur Jacques Ebenga, vous êtes dans ce studio. Un auditeur, Jean-Denis Agbadolité, dans la province de l'Équateur, explique que cette situation arrive par le fait que la RDC n'a pas d'armée patriotique, sinon les Angolais, les Mbororo, seraient déjà chassés. Jacques Ebenga, est-ce que c'est le manque d'une armée patriotique? Est-ce que c'est une question d'armée ou c'est plutôt une affaire qui revient à la Direction Générale de Migration?
C'est une affaire qui revient à l'État dans sa globalité. D'abord, il s'agit de migrations comme telles qui sont armées. L'objectif n'est pas forcément d'aller se mener une subversion contre l'État ou encore dans un but comme celui des Interahamwe, mais on risque d'avoir là de nouveau l'Interahamwe. Donc la question c'est de savoir exactement comment s'y prendre. À mon avis, d'abord, je l'ai dit ici précédemment, la frontière, l'intégrité de la frontière, ça relève de l'État, du gouvernement et particulièrement de l'armée. Les services de migration civile ne sont pas armés pour résister aux forces armées. Mais néanmoins, si ces services existaient là-bas, on aurait pu peut-être identifier le mouvement et la composition de ce mouvement.
On voit, ils sont entrés sans documents, donc il y a eu personne.
Apparemment librement, tout à fait. Donc la frontière n'existe pas dans leur esprit et dans les faits même de la réalisation par l'État de contrôle de la frontière. C'est pour dire que l'État congolais est un État vide à plusieurs endroits. La frontière n'est pas sécurisée. Et comme je l'ai dit, l'effort semble être porté maximalement à l'Est. On oublie qu'à l'Ouest, nous pouvons connaître des problèmes également.
Le cas de Bandundu à Kayemba.
Bandundu, le cas de cette partie-là de la province orientale, le cas de la province de l'Équateur, toujours aux frontières frontalières de Centrafrique. Tout cela semble dire que la tension sécuritaire de l'État est portée vers l'Est. Évidemment, nous n'avons pas encore réorganisé toute l'armée, mais en tout cas, il faudrait que déjà l'État commence à s'organiser pour faire face à des pareilles migrations forcées des populations de ce côté-là.
Est-ce que là aussi, il faut utiliser la force comme vous avez préconisé pour le Bandundu?
Écoutez, il faut dissuader. Il faut dissuader. C'est-à-dire commencer par comprendre pourquoi ils sont là et essayer de leur raconter, de leur dire qu'il n'y a pas à entrer dans un pays sans papier. S'il y a des raisons pour qu'ils puissent venir faire leur pâturage dans notre pays et qu'ils puissent payer les taxes et autres, il n'y a aucun problème. Ça fait partie du bon commerce entre les voisins.
Voilà.
Mais s'ils viennent s'imposer sans identité, sans rien du tout, alors là, ça devient...
Utiliser la force.
Ouais.
Honorable Cléophas Kamitatou, vous êtes député provincial du Bandundu, vous êtes du même avis que le docteur Jacques Ebenga.
Tout à fait. Je voudrais donner un élément supplémentaire. En 2004, j'étais au Sénat, j'ai dirigé une commission parlementaire qui a fait le Kivu, parce que pour l'affaire Moutebouchi, nous étions conviés à aller gérer la situation, mais nous avons transité par Kisangani. Et là, le gouverneur nous a posé le problème de Mbororo,
oui.
Déjà en 2004, et il a préconisé des mesures. J'ai repris en tant que président de la commission toutes ces mesures dans un rapport que le Sénat a déposé au gouvernement, où il a demandé qu'on régularise la situation. Ce ne sont pas des guerriers. Comme Jacques Bergard dit, s'ils sont à la recherche d'un pâturage favorable pour leur bétail, mais que cela se passe de façon régulière, qu'ils demandent des autorisations, qu'on les autorise, qu'ils n'apportent pas des armes sur notre territoire, parce que ça peut vite se transformer en guérilla. Donc nous avons donné toutes les indications pour que le gouvernement agisse.
Merci.
Depuis lors, le gouvernement n'a rien fait, strictement rien fait.
Merci.
Et voilà, nous revenons 3 ans après à la même situation.
Merci, honorable Cléophas Kamitatou. Nous retrouvons l'honorable Caroline Viana, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de la province orientale. Quelle solution vous préconisez pour le départ des Mbororo? Est-ce que votre Assemblée provinciale a évoqué?
Donc, premièrement, ce que nous pouvons vous dire pour ce problème de Mbororo, comme mon frère Olivier Kamitatou vient de vous dire, le problème qui se pose que notre gouvernement, on peut saisir un cas et il ne prend pas de disposition. Mais pour le cas de Mbororo, de temps en temps, on a déjà fait des bruits et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de disposition. C'est pour cela que pour nous, de la province et tous les députés qui sont ici de Bazuélé, on était parti une fois trouver les gens de la sécurité de la province orientale pour poser la question. On nous a répondu que cette situation est politique. Alors nous, on ne savait pas pourquoi on nous dit que c'est la situation politique. C'est l'exemple que le frère vous a dit. L'honorable, vous venez de vous dire, depuis 2004, ils ont écrit, mais il n'y a pas suite. Mais actuellement, pour moi et pour nous, tous le territoire de Ango, nous demandons au gouvernement de déployer une force sur terrain et de l'évacuer d'abord, dans un premier temps. Le deuxième point, et puis de mettre d'abord une frontière sécurisée entre le Congo et la République centrafricaine, contrôler toute entrée et toute sortie. C'est par là que s'ils viennent comme des éleveurs, on va maintenant le donner des conditions, payer les taxes et faire ceci. Non pas entrer librement, faire tout ce qu'il faut. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'exploiter dans toutes les forêts qui sont là, on n'a plus rien de là.
Voilà, on a compris, je rappelle à l'honorable Caroline Viana que nous sommes avec le député provincial Cléophas Kamitatou et non pas Olivier Kamitatou. Place aux opinions des auditeurs avec notre consoeur MCH. Bonsoir Aimé.
Bonsoir Jean-Claude. Nous allons commencer avec cette opinion de Fanny Akindou qui voudrait que le gouvernement dise aux Congolais si cette partie occupée par les éléments angolais est déjà vendue. Car, dit-il, on ne comprend rien. Gustave de Matadi dans le Bas-Congo dit ceci. Les Angolais ont des très bonnes raisons pour être sur le sol congolais et ils connaissent ce qu'ils font. Joseph Dédé Kabouzi à Ouvira au sud Kivu trouve que cette situation montre combien il est impérieux pour le gouvernement en train de faire une réforme de l'armée qui jusque-là n'est composée que des bandes armées mixées qui n'ayant aucun souci de la défense nationale. Jean Moussassa Akikuit au Bandou nous demande pourquoi la RDC se place toujours en position de faiblesse face aux autres pays voisins. Kabulo Alubumbashi au Katanga demande qu'est-ce qui fait que nos frontières soient aussi perméables qu'elle ne l'était pendant la Deuxième République. Car cela ne tienne, la sécurisation des frontières doit être le premier élément à garantir par ce gouvernement pour assurer l'intégrité territoriale. Mouga à Kinshasa dit ceci, il est temps de frapper le serpent qui veut mordre son talon, alors que le gouvernement fasse une attaque contre ses Angolais pour mesurer sa capacité militaire devant un ennemi. Romain Amissi Matongé à Ouvira au Nord qui vous se demande comment des élèves étrangers peuvent-ils menacer l'intégrité nationale? C'est de la même manière que les Rwandais étaient entrés en RDC. Robert Aïsiro en province orientale dit ceci, que le ministre de l'Intérieur applique la même formule que celle du gouvernement angolais s'il découvre que ses Mbororo et éléments angolais sont sans papier en RDC.
Voilà, merci MSCA. Réaction de nos invités, Cléophas Kamitatou.
Merci. Globalement, je suis d'accord avec la manière dont les questions sont posées par les auditeurs. Cela exprime l'inquiétude de tous les Congolais. Moi, j'ai beaucoup écrit, et j'ai écrit dans tous mes livres, qu'aucun Congolais, aujourd'hui comme hier, n'accepte de céder un mètre carré de son territoire à des étrangers, quels qu'ils soient. C'est pour cela que nous prétendons que nous sommes Congolais, que quels que soient les problèmes, nous sommes d'abord unis, et que nous sauverons les frontières de ce pays telles que nous les avons héritées en 1960. Donc, lorsque tous les jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, posent cette question, c'est qu'il y a une inquiétude. Donc, le gouvernement doit faire de ce problème-là la priorité de toutes ses actions.
Merci beaucoup.
C'est tout ce que je peux dire.
Merci, Cléophas Kamitatou, député provincial de Bandundu. Honorable Caroline Viana, vous avez suivi les réactions et les opinions de nos auditeurs. Comment vous réagissez à cela?
Oui, de ma part, je suis très content comme l'opinion a posé des questions. Actuellement, ça me fait peur puisque pour la situation que prévoit Mbororo.
Oui.
D'ici quelques années, nous allons habiter des problèmes comme ce qui se passe aujourd'hui vers Kivu. Alors, tous ceux qui vont venir maintenant, dans 2-3 ans, vont réclamer les nationalités. Comme nous, les Congolais, nous avions le fait toujours et laissé aller, on va les donner la nationalité pour créer des guerres plus tard.
Merci beaucoup.
C'est notre crainte. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de prendre en charge. C'est le moment de nous sécuriser et faire buter hors de notre territoire.
Mbororo. Voilà, merci beaucoup, honorable Caroline. En quelques secondes, Jacques Ebenga, voilà, vous avez suivi les opinions des auditeurs. Pourquoi la RDC est toujours en position de faiblesse face à ses voisins?
Je partage les préoccupations de la population et les propos de mes collègues intervenants. En ajoutant que si le gouvernement de M. Bizenga qui entre en fonction ne réagit pas face à cela, ça peut paraître comme si on était complaisant envers l'Angola parce que l'Angola nous a aidés dans ceci ou cela, notamment dans la formation, l'armée et autres, et ce serait alors une mauvaise interprétation qu'on aurait des rapports entre le Congo et l'Angola.
Voilà, merci Jacques Ebenga, merci à tous les invités. Fin de ce dialogue entre Congolais, nous avons parlé de la perméabilité des frontières congolaises avec l'incursion des troupes angolaises à Kayemba au Bandundu et la présence des éleveurs armés tchadiens et centrafricains, les Mbororo, dans le territoire de Ango en province orientale. Merci à tous de nous avoir suivis, à l'équipe de DEC, sans oublier Mimi Kindou à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission demain matin à 4h45, heure de Kinshasa et Kayemba, et 1h de plus à Ango et dans tout l'est de la RDC. Suivez la même émission sur votre site www.radiokapi.net et sur Antkout sur 11 690 kHz.
Bonsoir à tous et bonne suite de programme sur Radio Okapi.